Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Monsieur Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France, et Madame Hélène Carrère-Nanco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, se sont rendus en Haïti du 5 au 8 septembre de cette année 2012 pour aller visiter là-bas tous les programmes de Bibliothèques sans frontières. Il s'agit d'une ONG, donc la BSF, donc des programmes mis en œuvre dans le cadre du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D. Un prix à hauteur de 750 000 euros qui a été remis à cette association en 2010, la BSF, suite au terrible tremblement de terre, souvenez-vous, qui a éprouvé dramatiquement celle que l'on surnommait dans les siècles passés la perle des Antilles, Haïti. Alors, l'un des témoins, des acteurs essentiels de cette magnifique initiative est avec nous, à Canal Académie, en la personne du chancelier de l'Institut de France, monsieur Gabriel De Breuil. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Donc, j'ai rappelé le montant de ce prix important qui a été donc remis pour soutenir la BSF dans son programme de reconstruction des différentes bibliothèques que vous avez évoquées pour nous sur Canal Académie au cours d'une précédente émission. On peut rappeler, comme vous l'avez fait dans les émissions précédentes, monsieur le chancelier, que Haïti est en quelque sorte le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. C'est le seul pays à population originaire d'Afrique à avoir pris son indépendance sans bénéficier d'une aide extérieure, et une indépendance obtenue par une révolution d'esclaves. C'est magnifique, c'est d'un romantisme formidable, et puis qui démontre le courage de toute une population.
Dans l'esprit des Lumières, révolte dans l'esprit des Lumières, c'est en effet une histoire très présente encore.
Votre venue en Haïti en septembre de cette année vous a permis donc de rencontrer les Haïtiens, de donner également deux conférences consacrées au lien entre la France et Haïti. Et je crois que c'est l'Institut français en Haïti qui vous a accueilli pour ces deux conférences.
Il y a eu une première conférence qui n'a pas eu lieu là, qui a eu lieu à l'université, que Madame Hélène Carrère-Dancos a prononcée, qui était langue et littérature en France et en Haïti. Donc, plutôt centré sur les lettres et la littérature. Et moi, j'ai à l'Institut français, le lendemain, j'ai prononcé une conférence sur Haïti dans la francophonie. Et en réalité, c'est le problème des langues en Haïti, plus généralement. Et alors, j'ai prononcé devant un public qu'on peut considérer comme important pour l'Institut français. C'était entre 70 ou 80 personnes. Est composé en partie d'étudiants, un public très attentif et très intéressé par ces questions. La question linguistique, en effet, est prenante en Haïti. C'est très important d'avoir conscience de cela. C'est un pays francophone, très attaché à la francophonie, proclamant son attachement à la francophonie, ayant joué d'ailleurs dans le passé un rôle essentiel dans la francophonie. On ne sait pas, par exemple, que cette première république noire indépendante de longue date a joué un rôle pendant la guerre de 39-45 comme étant un porte-parole de la francophonie dans le monde, et notamment auprès des États-Unis. Et à la conférence de San Francisco en 1945, les travaux avaient commencé en anglais uniquement, et c'est la délégation d'Haïti qui a dit que mais il fallait considérer la langue française comme une langue internationale et a demandé que le français soit aussi langue de travail de la conférence de San Francisco. D'où reconnaissance de la langue française à l'ONU, d'où la présence de la langue française dans la plupart des organismes internationaux comme langue de travail.
Mais c'est très important.
Mais oui, c'est extrêmement important. Et la conscience de l'appartenance d'Haïti à la francophonie est une chose émouvante comme tout, parce qu'elle est indépendante. Elle est, n'est-ce pas, c'est même pas les souvenirs de la colonisation. Ça n'est pas le même cas que les pays d'Afrique nouvellement indépendants.
Elle est voulue, elle est soutenue.
Voulue et elle est alimentée, nourrie par une conscience littéraire et par une littérature, par une poésie, par des auteurs. Donc, c'est quelque chose de très frappant. Alors, c'est même si frappant que ça a donné lieu des débats sans fin au XIXe siècle entre différentes parties de la population en Haïti, parce que les lettrés, l'élite, a joué ce rôle de fille des Lumières et république indépendante sur la voie du progrès, alors que les forces opposées ont dit « mais comment, c'est de l'imitation, c'est du mimétisme, en réalité cela viole notre réalité profonde, qui est africaine, d'origine africaine, mais qui est caraïbe, et qui est noire, et qui est indépendante de la société française, et donc les tenants de l'indépendance culturelle d'Haïti, en français, dans un français enflammé, ont dénoncé le bovarisme culturel des élites. » Et alors rien que le fait que de caractériser la situation en parlant de bovarisme culturel et en parlant, on le voit dans les polémiques du 19e siècle, des discours d'Emma pour stigmatiser les élites d'Haïtiennes trop à l'imitation montre un degré de sensibilité littéraire et linguistique
évident,
émouvant, très frappant. Mais ça ne va pas tout seul. C'est une question profonde parce que cet attachement à la langue française, il est en réalité le fait d'une frange, une proportion assez faible de la population. Haïti a eu des différentes expériences. La domination espagnole n'a pas laissé beaucoup de traces linguistiques, mais enfin, Haïti est entouré de pays hispanophones. Bon, la République dominicaine qui est une frontière, mais la frontière est étanche, n'est-ce pas ? Il y a assez peu de passages entre les deux pays de la grande île de Saint-Domingue. Il y a plutôt des travailleurs haïtiens qui vont travailler de manière provisoire dans la République dominicaine, qui, elle, est beaucoup plus prospère et sous mouvance plutôt anglo-saxonne. Donc, les souvenirs de la domination espagnole ne sont pas très importants. Mais il y a eu une domination américaine pendant 20 ans, je crois, à partir de 1915. Assez brutale, d'ailleurs, car la question de l'indépendance des pays n'était pas encore soulevée, posée. Et que les Américains se sont trouvés investis d'une responsabilité qu'ils ont exercée de manière assez brutale et qui a laissé de mauvais souvenirs. Mais enfin, qui a laissé une influence, en tout cas. Et puis, Haïti est évidemment dans la zone d'influence des États-Unis d'Amérique, avec une diaspora importante.
De 2 millions, il paraît,
oui, 2 millions, c'est ça, qui, eux, se sont bien tirés d'affaires et qui sont essentiellement aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Au Canada par la francophonie et aux États-Unis d'Amérique pour des raisons économiques. Et donc cette diaspora, elle est de langue américaine, évidemment. Et elle a des relations avec l'intérieur d'Haïti. Donc le carrefour, il est grand et la question se pose de la présence de l'anglais en Haïti. Bien entendu, les hommes d'affaires, les financiers, en tout cas toute cette partie de l'activité d'Haïti a tendance à se dérouler en anglais. Cela est bien naturel, enfin on comprend pourquoi. Mais ça veut dire que donc le français est la langue dominante de l'État, de l'administration, et jusque à une époque récente était la seule langue officielle. Et la situation a cessé tardivement, vers 1980, avec même une réforme constitutionnelle dans les années 80, et qui a fait d'Haïti un pays qui a deux langues officielles, le français et le créole. La langue française est celle de l'administration, de la justice, de tout le monde officiel, de la politique et de toutes les élites.
Du droit.
Le droit. C'est aussi la langue de l'enseignement secondaire. Ce qui accuse encore la fracture, disons, linguistique, sociale. C'est-à-dire que les enfants des catégories, disons, favorisées fondent leurs études dans des écoles confessionnelles souvent, quelquefois public, en langue française, et vont dans le second degré, dans des collèges ou des lycées qui sont de langue française. Et le créole a longtemps eu une situation particulière, c'est-à-dire que c'est la langue parlée par 90% de la population, et souvent la seule langue parlée. C'est une langue plutôt orale, assez éloigné des racines françaises, en tout cas plus éloigné des racines françaises que le créole martiniquais, par exemple. Car il a été déformé au cours des siècles et il n'est pas compréhensible à l'oreille, alors que on peut comprendre des phrases en créole martiniquais, mais c'est la langue dans laquelle vivent la grande majorité de la population, d'où une coupure extrêmement importante, évidemment, qui est dénoncée, d'ailleurs, au sein de la population, avec cette revendication de la reconnaissance de la culture créole qui existe, de la langue créole et de l'enseignement du créole à l'école. Alors c'est en train de se faire, lentement, mais c'est en train de se faire. Et les Haïtiens font des expériences extrêmement intéressantes, bien conçues, en bonne relation avec tous les acteurs de la francophonie dans le monde de l'éducation, et Dieu sait qu'ils sont importants. Donc, mène cette expérience de double expérience, de scolarisation dans la langue créole, pour rendre service tout de même à cette partie de la population qui parle le créole, elle n'est pas mince, donc, et en même temps, d'extension de l'enseignement du français, car les autorités haïtiennes sont très conscientes du fait que le français est la langue d'accès à la modernité, une langue d'ouverture sur le monde technique, professionnel, juridique, donc il y a tout intérêt à étendre l'enseignement du français et l'usage du français dans la population. Il y a une organisation qui est l'Université de la Francophonie, très agissante, extrêmement active et présente en Haïti. Il y a une université des pays Caraïbes qui est tout à fait active, dont un siège est en Haïti, mais la partie active et agissante est plutôt en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est avec des échanges de chaires, des échanges de professeurs, des échanges de matériel pédagogique tout à fait actifs, qui marchent assez bien. Et puis, il y a la Fédération internationale des professeurs de français, qui est aussi une organisation agissante et qui, alors elle, à un niveau non pas universitaire, mais à un niveau l'enseignement primaire, les écoles, essaye d'encourager l'enseignement du français dans les écoles, avec formation des enseignants de français. Et voilà, cette situation mérite qu'on s'y attache parce qu'elle est assez originale, n'est-ce pas ? Et elle est surtout très ressentie et pleinement présente dans la conscience sociale d'Haïti.
On voudrait arriver à une sorte de bilinguisme pratiqué ?
Alors, on en est loin, mais la notion de bilinguisme est en effet une notion que la francophonie, à travers le monde, porte et anime de manière extrêmement naturelle et convaincante d'ailleurs. C'est un des rôles de la langue française dans le monde que d'être une langue de passage, d'échange entre les cultures et d'échange de manière sur un pied d'égalité et de manière fraternelle. Cela est reconnu et cela est ressenti aussi en Haïti. Donc il n'y a pas de conflit. Il y a simplement une question qui est une question que l'on doit remarquer, qui a des connotations linguistiques, mais qui est aussi une question sociale. La question sociale, elle réside dans le fait que la majorité de la population n'a pas eu jusqu'à présent accès à l'enseignement secondaire, qu'elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français, et que c'est évidemment la catégorie la plus défavorisée de la population. Donc une inégalité qui se cristallise autour de la question de langue, mais qui ne met pas en cause du tout l'attachement d'Haïti pour son bilinguisme. Officiellement, Haïti est un pays bilingue. Alors peut-être, il n'est pas le seul pays à avoir les deux langues officielles, mais c'est une question qui n'est pas uniquement de formulation juridique, c'est une vraie question de fond. C'est la définition même d'une société haïtienne ouverte sur la modernité. Je crois que, personnellement, j'exprime une opinion. C'est difficile de se former une opinion après une découverte rapide tout de même. Mais enfin, la question de la créolité n'est pas récente. Je l'ai rencontrée là, tous les voyages dans les Antilles, bien entendu. Et donc, il y a un enjeu, et un enjeu important, qui est que l'appartenance d'Haïti à la francophonie, très consciente, très admise, très revendiquée, soit en même temps une manière pour Haïti d'acculturer la culture créole, de la formaliser et éventuellement de faire évoluer la langue créole sans perdre son rattachement à la langue française, mais peut-être même en le favorisant. Il faut placer les choses sur un plan professionnel, n'est-ce pas ? C'est peut-être plus facile d'apprendre le français à partir d'un créole qui n'a pas renié ses origines avec la langue française, alors que le créole actuel est assez éloigné. Mais il n'y a pas d'autre origine au créole d'Haïti. C'est simplement, il a été déformé, il a été créolisé, davantage que le créole des autres Antilles. Donc c'est une question très importante et très sensible, intéressante d'ailleurs. Alors, y a-t-il une littérature créole en Haïti ? Oui, bien sûr, mais rien à voir avec la littérature de langue française. Il y a une vraie littérature de langue française, et qui est intéressante, qui révèle une véritable un goût. Il y a des éditeurs, il y a le grand journal d'Haïti est en langue française entièrement. Les chaînes de télévision, par exemple, s'expriment en français et en anglais. Les radios, en créole. Là encore, on voit le partage. Pourquoi ? Parce que la majorité de la population n'est pas forcément raccordée à l'électricité et donc ne regarde pas la télévision, alors que tout le monde a des radios. Ils ont des radios et des téléphones portables. C'est symptomatique, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Et donc, les radios privées haïtiennes sont en langue créole. Les radios officielles ont un équilibre entre le français et le créole. C'est une question très intéressante et qui va assez au creux des choses.
Et qui est travaillée par tous les partenaires sur le terrain.
Oui, oui, bien sûr.
Le Grand Prix, ce Grand Prix culturel de la Fondation Louis D, monsieur le chancelier de l'Institut, qui a donc été remis à cette association Bibliothèques sans frontières à hauteur de 750 000 euros. Ce prix accordé, remis, ce prix dont vous avez vu les fruits, les constructions, ce prix remis, quel est maintenant l'ouvrage en cours ? Quelle est la continuité de ce dossier entre Haïti et l'Institut de France ?
Il s'est créé des liens dont nous avons tous dit en nous séparant qu'il ne fallait pas les laisser perdre. Il y a un point sur lequel nous serons attentifs et que nous suivrons. C'est que il faut donner des livres à Haïti, aux bibliothèques. Les bibliothèques sont là, les rayonnages sont là. Il faut donner les livres. Et les choses ne s'organisent pas naturellement, spontanément. C'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de gens ont beaucoup de livres. Et on peut donner des livres, n'est-ce pas ? Mais ça ne se fait pas tellement, difficilement. Pourquoi ? Parce que il y a un tri à faire. Ce tri est compliqué. Les livres dont on veut se débarrasser sont les livres qui n'ont pas un intérêt énorme, qui ne sont pas des livres de lecture. Et en réalité, ce dont Haïti a besoin, c'est le fond de livres d'usage et de lecture. Et ces livres-là ne sont pas tellement disponibles pour des dons. Donc, il y a un tri, mais il y a tout de même beaucoup de livres à donner, et nous avons pensé qu'il y avait un programme à établir, là encore, Bibliothèques sans frontières, dont je ne saurais trop louer l'organisation, en particulier la personnalité de son président, M. Patrick Veil, qui nous a accompagnés pendant ce voyage, qui a reçu des compliments de toutes les autorités haïtiennes et de l'ambassade de France, nous aidera à monter. Il faudrait alimenter un courant de dons, ça ne se fera pas en une fois, mais il faudrait que, peut-être chaque année, tous les deux ans, on ait un don important de livres à Haïti. Ça serait une première démarche. Et puis, alors, vous savez, de toute façon, la littérature haïtienne est présente dans nos réflexions, notamment à l'Académie française. Des auteurs haïtiens ont déjà reçu des prix. Voilà, ça continuera.
Et les auditeurs de Canal Académie ont reçu donc l'information de transmettre ces livres et nous leur communiquerons le lien avec la Bibliothèque sans frontières.
C'est ça.
Dernière question, monsieur le chancelier, est-ce que ce type d'action est quelque chose de ponctuel suite à ce séisme catastrophique terrible et aux liens francophones qui unissaient et qui unit toujours Haïti à la France, ou est-ce une habitude récurrente de la part de l'Institut de France de se déplacer, de rencontrer, d'échanger, de mettre au point des programmes ?
Ce n'est pas assez une habitude, mais en tout cas c'est un souhait. Je souhaite vivement avoir l'occasion de nourrir un échange et un dialogue avec les partenaires de la francophonie dans le monde, et même si ce n'est pas des pays francophones de langue maternelle, c'est extrêmement enrichissant. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas dû, notre voyage n'est pas dû uniquement au séisme, c'est bien entendu la raison même de ce prix que nous avons été heureux de faire, mais l'Institut décerne ce prix culturel périodiquement et il l'a décerné jusqu'à présent à des organisations étrangères qui jouaient un rôle important dans le rayonnement de la langue française à travers le monde. Et dans deux cas au moins, j'ai eu l'occasion de faire, avec Madame Carrère-Dancausse une fois et seule une autre fois, le même périple, le même séjour, avec des souvenirs très importants et intéressants que j'ai gardés. D'abord en Pologne, pour saluer la création d'un réseau numérique et informatique entre les six principales alliances françaises en Pologne. Et spontanément, elles avaient présenté un projet consistant à dire « nous allons échanger » nos actions pédagogiques, notre matériel, nos conférences, nos enseignements de langue, Et cela va se passer par les écrans et par les réseaux. Internet, ils l'ont fait très bien. Et comme le prix est important, le même, cela a même permis à deux alliances françaises d'acquérir leurs locaux. Et une des alliances françaises a acquis un très bel hôtel ancien du XVIe siècle dans la place centrale de la ville de Torun. Vous savez que ces immeubles qui constituent la place historique du centre de la ville. Et comme cet immeuble était trop important pour être utilisé seulement par l'Alliance française, eh bien l'Alliance française propriétaire a loué une partie de cet immeuble. Et à qui l'a-t-elle loué? Eh bien au service d'information de l'ambassade américaine. Et je veux dire que c'est une assez grande satisfaction de voir que l'Alliance française loue ses locaux à l'USIS, l'organisme d'information et de culturel de l'ambassade américaine. L'autre voyage, équivalent, la même chose, ça a été en Égypte, car le prix culturel a été décerné à l'équipement des laboratoires, et en particulier des laboratoires de gestion des entreprises et de langues, à l'Université française d'Égypte, qui est une université de langue française, privée, soutenue par des entrepreneurs et des capitaux privés, et qui a un nouveau local dans un endroit qui est un campus important, où, par exemple, l'université allemande est également installée, à quelques distances du Caire, mais pas très loin. Et donc, nous avons équipé tous les laboratoires en moyens informatiques, moyens de communication, moyens d'études, dans le domaine de la gestion et des langues. Et alors, nous avons fait le même séjour et la même inauguration d'un certain nombre d'équipements que nous avions contribué à faire. Alors ça, ce sont des voyages d'inauguration et de... Mais les échanges, alors les conférences, par exemple, ça fait partie de notre, en quelque sorte, de notre rôle. Et nous le faisons à chaque occasion, bien entendu. Et ça peut être des relations avec les universités, ça peut être avec les lycées, avec les collèges d'enseignement secondaire. Oui, oui, ça fait tout à fait partie de notre fonction, en quelque sorte.
Monsieur le chancelier, monsieur Gabriel de Breuil, un grand merci d'avoir bien voulu, au cours de ces trois émissions de notre série Point de Mire, d'avoir bien voulu faire des auditeurs de Canal Académie les confidents, en quelque sorte, de ces différentes actions entreprises sur les terrains en faveur du rayonnement de la langue française, en faveur de la transmission de la culture de France. Merci, monsieur le chancelier.
Merci à vous.